Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance,
de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
L'apocalypse est notre chance. 12e épisode.
Quand je lui ai dit ce que j'avais entendu à Blainville, Vincent a paniqué et a tout raconté à Christine Collat, qui a cherché à m'en faire dire plus.
Qu'est-ce qu'il projette ? Quel type d'action ?
Arrêtez, Christine, je vous dirai rien.
Je vous demande de m'aider, Laura ! Je connais bien Kwaranski. Croyez-le ou non, mais je n'ai aucune envie de le voir s'embarquer dans quelque chose qui lui vaudrait de graves ennuis.
Je dois y aller.
Vous vous moquez complètement de cette université. Qu'elle se retrouve demain à la une des médias, vous n'en avez rien à faire. Vous ne passez pas une seule seconde à nos étudiants.
Je vais vous laisser.
De son côté, Boiron tirait les conséquences de ce que lui avait aussitôt rapporté la présidente de l'université.
Laura Vanetti s'est approchée du réseau. Elle sera en possession d'informations. Je veux que vous la coinciez.
J'ai carte blanche sur les méthodes.
Vous serez couvert.
Troisième partie opère un déplacement du point de vue critique.
J'étais en train de m'arracher les cheveux sur mon speech de soutenance quand j'ai reçu un appel.
Non. Ouvre une perspective.
Allô ?
Laura Vanetti ?
Qui êtes-vous ?
Écoutez-moi bien. Une réunion a eu lieu dernièrement. Des gens très haut placés veulent savoir ce qui s'y est dit exactement. Vous savez des choses sur cette réunion, et moi je suis payé par ces gens très haut placés. Vous me suivez ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Bon, qui êtes-vous ?
Vous m'avez très bien compris. C'est à ça que ça sert, les études à rallonge, non ? À piger sans avoir besoin de faire répéter. J'ai cru comprendre que c'était bientôt l'acquis, d'ailleurs. Vous allez présenter votre thèse ? Va falloir être concentré.
Vous savez tout, hein ? Vous croyez me faire peur ? Désolée, mais j'ai trop de boulot pour ça. Vous expliquerez ça à vos gens très haut placés.
Vous n'y êtes pas du tout, du tout. Je vous donne 24 heures pour me rappeler au numéro que je suis en train de vous envoyer par texto. Si je n'ai pas de vos nouvelles d'ici là...
Quoi, vous allez me buter ? C'est ça votre idée de génie ?
Non. J'ai une bien meilleure idée.
Formidable.
Je les connais, les grandes filles dans votre genre. Ça n'aime pas qu'on fasse du mal à leur papa. Surtout quand il a déjà... Payer sa dette à la société.
Allez vous faire foutre !
Bah y est, on se comprend. 24 heures, pas une de plus.
Je n'ai pas eu de mal à trouver mon père. Il était au café habituel.
Papa !
T'as couru ?
Il y a des types qui te cherchent. Faut que tu te tires tout de suite.
Il y a toujours eu des types qui me cherchaient, c'est pas nouveau.
Non mais putain, papa, un type m'a appelé, je voulais rien dire. Il m'a dit que si je l'appelais pas dans les 24 heures, il s'en prendrait à toi.
Rien dire de quoi ?
C'est pas le sujet, faut que tu te tires tout de suite, je te dis. Je sais pas dans combien de temps ils vont découvrir où tu te planques.
C'est déjà fait.
Qu'est-ce que tu racontes ? T'entends ce que je te dis ? Lève-toi.
Assieds-toi.
Mais...
Assieds-toi, je te dis. Un gars t'a appelé, tu dis ? C'est qui ? Bon, t'étais chez toi ?
Oui.
Et t'es venu ici directement ?
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? J'ai appelé Michel, mais il voulait pas... Oh putain, tu crois que...
Que le type est déjà dans la rue, sans le moindre doute.
Ok. Alors je vais l'appeler, j'ai pas le choix.
On a toujours le choix.
Non, c'est ça.
Tu me racontes maintenant ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi ce gars, il te connaît ?
Bien, on va le promener un peu.
La dernière fois que je m'étais promenée avec mon père, j'étais une gamine. J'avais grandi et il s'était tassé.
Je vois personne. J'ai peut-être pas été suivie. T'as encore le temps de te tirer.
Ils sont deux, ils sont derrière nous. Non, vers la gauche. Tu les vois ?
Non.
C'est un métier.
Ah, tu trouves ça marrant ? T'en as vraiment rien à foutre de ce qui m'arrive, hein ?
Mais si tu veux te taire, c'est ton droit.
Comme tu te tais, toi, c'est ça ?
À peu près.
J'ai pas braqué de banque, moi.
Nous y voilà, encore.
Eh oui, encore. Tu me diras un jour ce qui s'est vraiment passé.
C'est toi qui as des ennuis pour l'instant.
Plus tard alors, c'est ça ? Quand exactement ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que le jour où j'ai appris que t'étais en taule pour braquage, je me suis dit, ça y est, je connais la vérité ? Tu parles ! Pendant tout ce temps, j'ai vu maman te défendre avec des éclairs dans les yeux. Elle l'aurait pas fait pour un braqueur. Me regarde pas comme ça. Si tu l'aimais tant que ça, tu me dirais la vérité.
Ne parle pas d'elle et moi. Maintenant, écoute-moi. On parlera de tout ça si t'y tiens, mais pas maintenant. Parce que là, tout de suite, si t'as des emmerdes avec des gars qui s'affilent quelqu'un comme ceux qu'on a dans le dos, moins tu en sais, mieux c'est.
Et après, on se demande pourquoi je fais un métier où plus on en sait, mieux c'est, justement.
Et c'est quand, d'ailleurs, la fin de ton machin ?
C'est demain.
Demain ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Fige le camp, on va te préparer.
Mais je m'en fous de ma soutenance.
Dis pas de conneries, Laura. Tire-toi et merde pour demain.
Et toi ?
Je vais retourner à l'imprimerie en courant, ça leur fera un petit jogging. Si le gars t'a donné 24 heures, il bougera pas avant de toute façon. Et je vais pas rester planté là. Allez, file, je te dis.
Papa.
Épate-les demain.
J'étais à 5 minutes d'entamer mon discours de soutenance. 6 ans de boulot sur le point d'aboutir, et je ne pensais qu'à une chose. Mon père.
T'es livide, Laura. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau ?
Arrête, ça va.
Ça va bien se passer, tu sais.
J'ai pas envie de te parler. On fait une trêve aujourd'hui, mais je suis toujours en run contre toi. Et c'est pas du tout réglé.
On reparlera de tout ça, mais aujourd'hui, c'est ton jour à toi. Et t'as vu ? Milran est là. Et Fabre, avec Tamou. T'as attiré tout le gratin.
Je vais m'évanouir. Regarde, ils ouvrent la porte.
C'est le grand jour, Laura. Tu vas les éblouir.
À ce moment-là, je ne sentais plus mes jambes. Le président du jury n'était pas encore arrivé. Et j'entendais monter le brouhaha de la salle derrière moi.
Excuse-moi, la place est libre ?
Pardon ?
Je peux m'asseoir ici ?
Ah, bien sûr, j'adore l'idée que tu t'assoies ici.
Indirect.
Ouais, direct. Je m'appelle Willy.
Vanessa.
Tu connais Laura ?
C'est ma prof en L2. J'adore ses cours.
Ouais, moi aussi, c'est ma prof en L3. Mais elle et moi, on est sur toi, Annie.
Vous laissez pas baratiner, mademoiselle.
C'est qui, lui ?
C'est son coloc, il est chiant. J'avais pas vu qu'il était juste devant.
Je vous entends, Willy.
Bon, alors, comment ça se passe ?
Alors, le président va d'abord faire un discours.
Pas du tout.
De quoi je me mêle ?
Vous voulez savoir comment ça se passe ou pas ?
Oui.
Et vous voulez me casser tous mes plans, c'est ça ?
Président du jury, qui ferait bien d'arriver d'ailleurs, ouvre la soutenance. Il fait pas de discours au début. C'est Laura qui va parler en premier. Elle a 20 minutes à peu près pour présenter sa thèse. Ensuite, c'est Cola qui parlera.
Pourquoi Cola ?
Parce que c'est sa directrice de thèse depuis la mort de Payron.
Mais elle va dire quoi ?
Bon, le directeur de thèse, normalement, il n'y a rien à craindre. Il est plutôt là pour désamorcer les grosses critiques, faire diversion et formuler quelques remarques pas trop dures pour que le thésard puisse bien répondre et se sentir en confiance.
Parce que Madame Vanetti doit répondre ? Devant tout le monde ?
Oui.
Ouais. Après le speech de Cola, Laura devra répondre, mais brièvement. Ensuite, ce sera le tour de son premier rapporteur. C'est le petit chauve, là. C'est le plus important. Il est directeur d'études à l'EH et c'est un ponte sur le sujet de Laura, au moins sur la partie historique. Et le deuxième, c'est Larousse. Elle est prof à Lyon et elle a travaillé assez longtemps avec Payron.
Mais c'est qui les autres, du coup ?
Il y a 2 membres simples, le grand tout sec et l'américaine qui parle avec Cola. Je crois qu'elle va faire son speech en anglais, d'ailleurs. Eux, ils n'ont pas fait de rapport, mais ils connaissent quand même pas mal le sujet.
Il en manque un, c'est ça ?
Le président. Il parle en dernier, il est plutôt censé détendre l'ambiance avant la délibération. Et c'est Trotman, le président. C'est un nerveux, je ne sais pas ce qu'il va faire. J'avais déconseillé à Laura de le prendre, mais elle l'aime bien. Faut vraiment qu'il arrive, je sais pas ce qu'il fout là.
Ça va durer des plombes s'ils partent tous.
Ouais, ça peut durer 4, 5, 6 heures en tout. Faut garder les idées claires tout ce temps-là. En général, au bout de 3 heures, le thésard part en sucette et commence à répondre moins bien.
Moi, je tomberai dans les pommes directes. Parler en sachant qu'il y a 100 personnes derrière moi qui m'écoutent, mais c'est même pas la peine.
Faut que tu m'étonnes.
Et il y a une note à la fin ou un truc comme ça?
À la fin, le président va nous demander de sortir et le jury va délibérer pour savoir s'ils accordent le doctorat et avec quelle mention. Il faut avoir les félicitations du jury. Sinon, c'est même pas la peine d'espérer avoir un jour un poste à l'université.
Ça arrive souvent de pas les avoir?
Dans cette fac, c'est rarissime. Il faut vraiment avoir merdé. Il faut absolument l'unanimité. Donc il suffit qu'un membre du jury décide de jouer au con et ça peut partir en vrille.
Je l'ai.
Ah, voilà le président. Ah. C'est pas trop tôt.
Je vous prie d'excuser mon retard. Si nous pouvons faire le calme dans la salle, nous allons commencer sans tarder.
Oh la vache, c'est parti.
Donne-moi la main.
J'étais presque au bout de mon speech. Comme une idiote, je me disais. Encore 20 secondes. Et je pourrais reprendre mon souffle en écoutant Cola.
Pour conclure, j'espère avec ce travail avoir contribué à ouvrir la boîte noire de l'illusion économique au fondement du système boursier et ainsi avoir fourni des outils critiques renouvelés à ceux qui souhaiteraient briser cette illusion. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, je vous remercie.
Elle a assuré.
J'ai rien compris, mais j'adore.
Le premier rapporteur a opiné tout du long, ça va se passer comme sur des roulettes.
Mais elle est trop forte.
Merci. Je passe la parole au professeur Christine Collard qui a dirigé cette thèse.
Merci, monsieur le président. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà dans cette salle, la thèse que mademoiselle Vanetti soutient aujourd'hui a longtemps été dirigée par le professeur Payron. Son objet, ses méthodes d'enquête, ses références et ses ambitions en porte l'empreinte. À la suite de la disparition du professeur Payron, m'est revenue la tâche d'assumer la poursuite de cette direction de thèse. Et je dois dire que j'ai d'abord beaucoup admiré la ténacité de Laura Vanetti qui pas une seconde n'a envisagé d'abandonner ce travail. Et peu à peu, pourtant, l'honnêteté m'oblige à le dire aujourd'hui, j'ai mesuré à quel point j'héritais là d'une direction difficile.
Mais qu'est-ce qui lui prend?
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, on dirait qu'elle s'apprête à la descendre.
Certes, en tant que directrice officielle par intérim, dirons-nous, il m'incombe d'endosser une partie des défauts de la thèse de mademoiselle Vanetti. Mais, excusez-moi, une partie seulement.
Non, mais...
C'est pourquoi je voudrais souligner trois problèmes de fond.
C'est hallucinant, elle est en train de la flinguer.
Les autres vont la défendre.
Mais je sais pas, je comprends pas ce qui se passe.
Et qui doivent évidemment nous interpeller sur ce que, aujourd'hui, dans l'université française, nous attendons d'un travail de doctorat.
Laura.
Donc, je qualifierais le premier problème de théorique, le second de méthodologique et le troisième de politique. Premier problème.
Christine Collat m'avait descendu en flammes. J'étais sonnée. J'ai pensé à Luc. C'est à ce moment-là que la tristesse a cédé la place à la colère. Cette colère a grandi et a commencé à flamboyer.
S'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Nous allons entendre les réponses de mademoiselle Bonetti.
Le brouhaha qui vient d'agiter cette salle en témoigne. Les questions qui viennent d'être soulevées par le professeur Collat sont d'une nature inhabituelle. Il est singulier d'entendre dans cet amphithéâtre un aspirant docteur se faire ainsi tancer par sa propre directrice. Pour que chacun puisse comprendre ce qui est en train de se produire, et puisque je ne m'adresse pas seulement à vous, mesdames et messieurs les membres du jury, mais aussi au public venu nombreux qui est assis derrière moi, et parmi lequel figurent nombre d'amis profanes, de personnes rencontrées au cours de mon enquête de terrain, de militants intéressés par mon sujet, mais n'étant pas forcément au fait des mœurs universitaires, je crois utile d'expliquer ce qu'est un directeur de thèse.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réplique.
Un directeur de thèse
prend le thésard à l'état de tétard, parce qu'il le juge prometteur ou parce qu'il porte un intérêt au projet de thèse, ou bien parce que le thésard le lui demande. Il lui fait préciser son sujet et affiner ses premiers questionnements jusqu'à la construction d'un véritable objet. Il l'aide ensuite à entrer sur le terrain, à en saisir les enseignements et les surprises, à savoir réorienter l'enquête quand c'est nécessaire. Il suggère au thésard des pistes, des lectures, il soulève des questions. Il attire l'attention sur un point resté aveugle, un impensé ou un angle mort. Il aide le doctorant à avancer dans les moments de doute et à douter dans les moments où l'arrogance le guette. Et il lit la thèse au fur et à mesure qu'elle s'écrit. Le jour de la soutenance, il peut alors assumer le travail présenté par son docteur parce qu'il y tient une large part. Il peut aussi le critiquer et regretter que certains de ses conseils n'aient pas été suivis, que certains points n'aient pas été approfondis. Il peut enfin s'attrister lorsqu'il lui semble que la thèse lui est en quelque sorte infidèle, parce qu'elle prend trop de distance théorique vis-à-vis de celui qui la dirige, mais il sait ce que le doctorant a sacrifié durant plusieurs années pour en venir à soutenir une thèse. Il sait ce qu'il en coûte. Aussi, quelles que soient ses réserves, il les exprime avec mesure et respect, comme il le ferait face à un collègue. Chacun s'accordera, je crois, sur le fait que le professeur Collat est sorti de ce registre. C'est son choix, mais cela n'invalide en rien ce que je viens d'exposer. Christine Collat n'a jamais dirigé cette thèse autrement qu'administrativement. Cette thèse n'a au fond jamais eu qu'un seul directeur. Je parle bien sûr de Luc Payron, qui n'a jamais failli dans son rôle et dont l'exigence et la bienveillance m'ont guidée et soutenue toutes ces années. S'il était là avec nous aujourd'hui, je répondrais avec humilité à ses questions. Il n'est plus là, mais je sais qu'il voudrait que cette soutenance soit l'occasion d'une véritable discussion scientifique sur l'objet qui est au cœur de mon travail, et non de règlement de compte sans rapport avec le contenu de ma thèse. Aussi, si vous l'acceptez, Monsieur le Président, je souhaiterais maintenant que vous passiez la parole au premier rapporteur pour que cette discussion scientifique puisse enfin s'engager.
Silence. S'il vous plaît. Puisque rien ne semble devoir se dérouler aujourd'hui comme dans une soutenance ordinaire, je vais accéder à votre requête, mademoiselle. Et je passe maintenant la parole au premier rapporteur.
J'avais tenu bon face à Collat. J'avais réussi à me reconcentrer et à répondre correctement aux deux rapporteurs. Mais j'étais au bout du rouleau quand le président a annoncé une pause.
Laura.
Oh, Vincent.
Viens, reste pas là, on va te passer un peu d'eau sur le visage.
Elle me fout ma soutenance en l'air.
Je suis désolé, Laura.
6 ans de thèse, Vincent.
Je sais, tiens. Viens par là. Passe-toi un peu d'eau fraîche sur les avant-bras, ça remet les idées en place.
C'est pas moi qui ai besoin qu'on me remette les idées en place.
T'avais raison depuis le début, je me suis trompé sur Collat. Elle va peut-être reculer au moment des délibes, tous les autres avaient l'air éberlués.
Tu crois?
J'espère.
Pas mieux?
Non, pas mieux.
J'avais répondu pendant 2 heures aux questions des autres membres du jury. On venait de nous faire sortir. C'était l'heure des délibérations.
Sois raisonnable, Christine. Tu sais très bien ce que ça veut dire de lui refuser les félicitations.
Payron se retournerait dans sa tombe.
Écoutez, en donnant les félicitations, on lui donne un sésame pour un poste. Donc je vous le redis, je ne nie pas que son travail ait des qualités, même si je trouve que vous les surévaluez, mais je connais bien Laura Vanetti. En tant que personne, ni vous ni moi n'aimerions être amenés à l'avoir pour collègue.
Je croyais qu'on évaluait les qualités scientifiques, et seulement les qualités scientifiques. Am I wrong?
Non.
Mais enfin quoi, on est obligé de te croire sur parole.
J'ai vraiment l'impression de participer à un règlement de compte. Oh, je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Excuse-moi, j'aime pas du tout ça.
C'est une des meilleures thèses que j'ai lues ces dernières années. Je ne comprends même pas pourquoi on est en train de discuter.
Bah, très bien, mais alors ne discutons plus. Votez comme vous l'entendez et j'en ferai autant.
Si tu lui votes pas les félicitations, peu importe comment on vote, tu le sais très bien.
Je n'aurais jamais accepté de présider ce jury si j'avais su que c'était une embuscade.
Non, bah, écoute, votons, tu as raison. L'air devient fétide ici.
Fétide? What does it mean?
Ça pue. Ça veut dire « ça pue ».
Le moment du verdict était arrivé. Le jury tenait ma vie entre ses mains et ça me donnait le vertige.
Mesdames, messieurs, mademoiselles, je vais vous demander un peu de silence pour la proclamation.
Aline, dis-moi qui vont lui filer les féloches.
Ah, je sais pas. Colin n'avait pas l'air d'humeur à plier.
Elle fout toute la carrière de Laurent en l'air, quand même.
Ah, tu la connais mieux que moi.
Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle.
Mesdames, messieurs, mademoiselle, si vous voulez bien vous lever. Après en avoir délibéré, âprement délibéré même, ajouterai-je, le jury a décidé de vous décerner le titre de docteur en sociologie avec la mention très honorable.
Oh non.
C'est pas vrai.
Quoi? Très honorable, c'est pas bien.
C'est la cata.
C'est mort pour elle à l'université.
6 ans de scène. En fumée.
L'apocalypse est notre chance. De Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer. 12e épisode. Avec Tiffaine Rabot-Fournier, Guillaume Marquet, Slimane Niefsa, Hélène Alexandridis, Jean-Louis Couloc, Jean-Luc Guillotin, François Hatt, Anne-Clotilde Rampou, Florence Janas, Jean-Claude Durand, Thierry Bosque, Lexique Henrik, Christine Culorier, Bernard Alouf, Geoffroy Barbier, Renaud Abraham Kremer. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière et Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Benjamin Habitant. Extrait du journal de Luc.
28 avril. Je n'ai pas eu d'enfant, car celles avec qui j'aurais voulu en avoir les ont fait avec d'autres. Je ne peux pas leur reprocher car j'ai toujours été prêt trop tard, toujours après elles, toujours lorsqu'elles étaient déjà parties ou, comme elles, jamais arrivées. Je n'ai pas eu d'enfant, mais je vais aimer jusqu'au bout assister au spectacle de la joie intime, de la joie puissante qui anime mes étudiants, qui les happe lorsqu'ils parviennent parfois après des années d'études au saisissement de la pensée. Quinière a raison, la pensée est un rayonnement, mais ce rayonnement suppose une désappartenance, de n'avoir plus ni parents, ni maîtres, ni maison, ni dettes. Pourquoi en écrivant ces lignes, le visage de Laura s'impose-t-il? En pensant à elle, à sa façon si personnelle de mener sa danse dans le rythme propre de sa pensée, je me demande quel a été mon rôle. Contrairement à nombre de ses condisciples, Laura n'est pas née universitaire. Son père était absent. Sa mère est morte alors qu'elle était encore jeune. Aucun d'eux n'était professeur. Elle n'avait ni réseau, ni connaissance du milieu. Laura ne doit son chemin qu'à elle-même. Mais je sais, elle me l'a dit, et j'en suis conscient, qu'elle n'aurait pas sans mon soutien pu devenir la chercheuse qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu cette séance. Elle avait fourni un papier, quelques pages pour une publication collective, un numéro spécial. Je l'ai convoquée et je lui ai demandé de déplier ce qu'elle avait posé dans ce texte assez court. Je me souviens de ses yeux étonnés. Elle a commencé en tâtonnant. J'ai dû l'encourager plusieurs fois pour qu'elle se fasse confiance. On aurait dit qu'elle gravissait à main nue un mur de pierre lisse de 100 mètres de haut. La joie l'a happée vers la fin. quand elle a embrassé l'architecture totale, ses prémices et ses implications de ce qu'elle venait de développer. Elle avait les joues rouges de joie. Ce jour-là, j'ai eu le sentiment de n'être ni plus ni moins que le père que j'aurais rêvé d'être pour mes propres enfants. Je lui dois cela.